Nous et l'époque messianique. Alors, Yann Gmara, je crois que j'en ai déjà parlé ici une fois. Bon, on va la revoir. La Gmara se trouve à la page 98, traité Sanhedrin. Le bas de la page A et haut de la page B. La vérité, c'est que j'ai envie de parler plus longtemps qu'une demi-heure. Qu'est-ce qu'on fait?
En deux parties.
En deux parties?
Voilà, on a un sujet, puis demain...
Hein?
Notre sujet, puis demain...
Tu veux qu'on commence déjà, je vois. Bon. Bon. Alors, au préalable...
On recommence?
Bon, on recommence. Allez, shalom. Non, c'est bon. Ah, c'est... Coucou, voilà, on commence. Bon, à propos de l'actualité, les questions qui reviennent toujours... Proposer l'époque messianique, qui nous sommes, où nous allons et qu'est-ce qui se passe. Alors nous ne sommes pas des prophètes, ni fils de prophètes en tout cas, des dernières générations, mais on a les textes et il est curieux de voir qu'il y a des fois des sortes de petits clins d'œil qui nous montrent une certaine corrélation entre les textes et la réalité. Encore une fois, nous ne sommes pas prophètes donc on ne peut pas être certain à 100%. C'est sympa. Oh, on entend des choses qui sont sympas. Quand j'étais à l'armée, il y a 26 ans bientôt, le grand général nous a dit que nous avons une chance extraordinaire, que deux superpuissances sont en guerre l'une contre l'autre. L'Irak et l'Iran. L'Irak que nous avons connu dernièrement, conquise par Bush le fils, ce n'est pas l'Irak tel qu'il était avant la première guerre du Golfe. Avant la première guerre du Golfe, l'Irak, c'était une armée extrêmement puissante, des dizaines de divisions de tanks, c'est des quantités énormes de soldats et de tanks, d'artillerie, de moyens. Tsahal, avec toute la force qu'il est, si on avait une bataille en confrontation directe avec l'Irak, c'était terrible. Je ne sais pas si tout le monde dit que Tsahal est invincible, ok, mais on aura souffert énormément. Et Baruch HaShem, l'Irak est en guerre contre un autre énorme aussi, l'Iran. Des centaines de milliers de morts, des gaz, une guerre qui a duré plus de 10 ans. C'était il y a une trentaine d'années. Il y avait un très grand tzaddik ici, en Israël, que j'ai eu l'occasion de voir une fois dans ma vie. Une fois vivant, une fois à son décès, j'ai eu la chance d'aller à son enterrement, c'était le rabbi de l'Elov. Un monsieur d'une sainteté extraordinaire. Il a jeûné 50 ans de suite, mangé que la nuit, pas le jour. Le jour de sa mort, il pesait 24 kilos. Comment il est mort? Il était couché sur son lit, tout à coup devenu tout rouge, deux larmes ont coulé de ses yeux, il a pris sa main comme ça, et tac, il est mort. On appelle ça une mort en baiser, qu'on voit la shrina. C'est marqué que les grands tzadikim, ils voient la shrina venir vers eux, et l'âme, notre âme et la shrina, c'est la même entité, on a une âme divine. Donc l'âme, elle aspirait, on avait ça, Dieu vient et donne un baiser à l'âme. Et hop, tu vois vraiment. Ce grand, grand rabbin, le rebbe de Lelov, j'ai un ami qui a un ami, un homme très important ici en Israël, un rabbin qui fait beaucoup, beaucoup de bien dans le monde, c'est le Rav Grossman, qui m'a raconté, Rav Grossman, c'est le Rav de Migdal HaEmek, qui m'a raconté que lui, dans sa jeunesse, c'était très proche du rabbi de Lelov. Il m'a raconté quelques petites histoires à son propos que je vous raconte parce que c'est utile pour la suite de notre histoire. D'abord, l'histoire rien que pour voir la grandeur de ce Rav. Encore, ce sont des choses qui nous dépassent complètement. Je parle de gens extrêmement sains, d'un calibre qu'il n'y a plus aujourd'hui. Lui, Baba Salé, était très très copain. Copain, enfin, ouais, s'aimait beaucoup. Des gens de très haut calibre. À la fin de sa vie, m'a raconté le Rav Grossman, le rabbi de Lelov, a voulu faire une atarat nedarim, annuler un vœu. Quand quelqu'un fait un vœu, c'est très grave de le transgresser. C'est très grave, c'est marqué pourquoi est-ce que les petits-enfants meurent dans leur jeunesse à cause de ce péché que font leurs parents. Ça peut être une raison qui, d'accord, c'est pas aussi direct que cela, que quelqu'un transgresse un vœu. Donc on ne fait jamais des vœux. Et quand on dit qu'on ferait une mitzvah, on dit toujours blineder, qu'il n'y ait pas de vœux là-dedans, parce que c'est quelque chose d'extrêmement grave. Il a fait un vœu. Il souffrait d'eczéma. Et comme tout le monde sait cela, l'eczéma, ça gratte terriblement. Il a fait un vœu que jamais il se gratterait. Pour être certain de ne pas se gratter, il a fait un vœu. Jamais je me gratte. Pourquoi? Il s'est dit, comment je peux être devant Dieu et me gratter? Donc on ne sait pas c'est quoi Dieu ni sa présence. Alors, je me gratte, ça me gratte, je me gratte, d'accord? Mais imagine que tu es devant monsieur, je ne sais pas moi, un petit roi, Chirac. Bonjour monsieur le président. Ouais, c'est intéressant ce que vous dites. D'accord, c'est qui Chirac? C'est Chirac, d'accord, je te parle maintenant du roi des rois. Un homme d'une sainteté tellement grande, il sent la présence de Dieu, du roi du monde, il ne peut pas se gratter. À la fin de sa vie, il était extrêmement malade. Moi, quand j'ai vu, il était déjà couché, paralysé, il était. Une tête comme un bébé de sainteté. Il a demandé à faire une interim, donc annuler ce vœu. Il s'est dit, je suis très malade, et j'ai peur maintenant qu'étant malade, sans faire attention, une fois, je risque de me gratter. Alors je demande d'annuler mon vœu. Un homme qui toute sa vie souffre d'eczéma, jamais il se gratte. Parce qu'il est en face de Dieu. Ce sont des choses qui vous dépassent complètement, mais pour vous dire un peu la grandeur de cet homme-là. Alors Gross m'a raconté qu'un jour, il s'est faufilé voir le seder du rabbi de Lelov. Le Rav Grossman, lui, il est un chassid de Karlin. Il y a plusieurs chassidouyot, plusieurs groupes comme ça, de chassidim. Lui, c'était Karlin. Mais, comme je dis, il était très proche du rabbi de Lelov. Le soir du seder, le rabbi de Lelov ne recevait que des gens mariés. Pas des gens pas mariés, pour des raisons de sainteté. Quelqu'un qui n'est pas marié à une femme, donc il a des pensées de femme, c'est lui, il veut que ce soit hyper... Le soir du seder, c'est hyper kadosh, hyper saint. Donc, que des gens mariés pouvaient venir à sa table et trier sur des volets. Le rabbi Grossman s'est faufilé, il s'est assis. Le rabbi l'a vu, n'a rien dit. Bon, il est resté. Alors, il me raconte comment c'était le seder du rabbi Lelov. Très très rapide, il lisait rapidement. Tout coup, il était pris en transe comme ça. Il se levait, se plaquait contre le mur et se roulait sur le mur, comme ça, dos au ventre, tout le mur comme ça, en train de lire la Gada de Pessah, comme s'il était en guerre contre des forces géantes. À la fin de la Gada, il s'assied comme ça, épuisé. Et il voit le Rav Grossman, il s'appelle Yitzhak David Grossman. Il s'appelle Rav Yitzhak David Grossman. Alors en yiddish, c'était Ichi David. Ichi David. T'es racé de Karlin, n'est-ce pas? Rav Grossman, oui. Pourquoi ton père, il fait la Gada de Pessah avec des intentions kabbalistiques de Chabad, de Lubavitch? Un autre groupe en chassid, c'est Chabad, Lubavitch. Le Rav, il dit, oh, je sais pas. Bon. Après la fête, le Rav Yitzhak David repart voir, il avait 18 ans à l'époque, il repart à Jérusalem, où habite son père, le Rav Grossman, père, il habite encore ici à Jérusalem, c'est un grand possèg de la génération, un très vieux monsieur. Il dit, papa, dis-moi, la Gada de Pessah, tu l'as fait dans quel Agada, quel livre? Il dit, écoute, tu sais bien que je suis Karlin, moi j'ai fait l'habitude dans Karlin, mais quelqu'un m'a offert une très belle Agada de Chabad, de Lubavitch. Alors je l'ai fait d'après les intentions de Lubavitch. Le Rav de Lelov, il a Bnei Brak. Il fait sa gada, il voit les intentions kabbalistiques d'un homme à Jérusalem. C'est un monsieur que le monde il est comme ça devant ses yeux. Énorme, énorme, énorme. Peut-être histoire qui n'a rien à voir, à la fin ça aura à voir. On s'est raconté souvent ici. J'ai étudié moi pendant 13-15 ans avec mon copain d'études, qui dans sa jeunesse a étudié dans la Shivat HaNegev. Shivat HaNegev, c'est la Shiva de Rav Yisachar Meir, qui se trouve à Netivot. Une yeshiva dans le sud du pays, qui habitait à Netivot, à 300 mètres de la yeshiva, Baba Salé. Et le copain d'études de mon copain d'études, il y a quelques années, il avait dans sa jeunesse un autre copain d'études, là-bas dans cette yeshiva. Ce copain d'études avait une voiture, ce qui était extrêmement rare. Il y avait 2-3 personnes dans toute la ville, c'était un petit village, d'accord, qui avait de voitures à l'époque. C'était il y a 35 ans, 40 ans. Et très souvent, Baba Salé devait faire une course, avait besoin de quelque chose. Alors il appelait ce copain d'études et lui disait, viens, prends-moi ci, prends-moi là. Un jour, comme ça me raconte mon copain d'études, lui a raconté son copain d'études, c'est ce qui m'arrive aujourd'hui, truc extraordinaire. Baba Salé m'a demandé d'aller à Ashdod voir son fils. Le fils de Baba Salé, c'est Baba Meir, qui était un homme aussi grand que Baba Salé, un géant extraordinaire. Si je commence à parler sur lui, on aura 3 heures, on ne finira pas. D'une sainteté extraordinaire. J'ai envie d'en parler, mais je me retiens. Alors, ils sont partis en voiture, Baba Salé est derrière, le conducteur conduit, ça prend une heure de route à l'époque, arrivé à Ashdod, ils arrivent en bas de la maison de Baba Meir. Baba Salé dit au conducteur, va appeler mon fils. Le conducteur sort, va appeler le fils, Baba Salé se met à la place du conducteur. Baba Meir revient, se met à côté de lui, le conducteur se met derrière. Et Baba Meir rentre, il fait la bise à son père, et s'assied. Pendant une demi-heure, pas un mot. De temps en temps, un petit grognement. Après, Baba Meir fait la bise à Baba Salé, il remonte chez lui, Baba Salé, on repart, il repart sur...
Lui conduisant.
Non, c'est le conducteur qui est revenu, ouais, c'est juste. Donc, télépathie, il parle, des gens de ce calibre-là. La parole a beaucoup d'impact, il faut savoir. C'est juste une petite parenthèse. Quand quelqu'un va faire une grande mitzvah, qu'il n'en parle pas trop. Parce que le fait d'en parler, ça réveille déjà les... Ça excite. Ça excite ceux qui ne veulent pas qu'on fasse les mitzvahs. Les puissances spirituelles qui ne veulent pas qu'on fasse la mitzvah, il y a toujours un côté négatif, positif. Le négatif, ça l'excite quand on dit qu'on va faire une mitzvah. Donc ça, très souvent, ça les empêche. Ça... Un temps dans ma jeunesse, ça fait bien longtemps, des années que je n'ai pas fait ça, c'est bien d'étudier le matin tôt avant la prière. Mais c'est dur, il faut se lever, il faut... Alors, il y a un monsieur dans la même rue que j'étais, on a laissé qu'on offrait tous les jours comme ça une petite heure d'études avant la prière assez tôt le matin. J'ai remarqué, c'est extraordinaire. Chaque fois qu'on disait alors demain matin, ça ratait. Ou moi je dormais, ou lui il dormait, on ratait toujours. Et chaque fois qu'on disait avec un petit clin d'œil, ça marchait. Parler, ça devient beaucoup plus dur. Tu as beaucoup plus d'épreuves à soulever que lorsque tu ne parles pas. Donc c'est peut-être une des raisons pour lesquelles les choses importantes se disaient sans se dire, en pensée. Maintenant, on va revenir à l'autre histoire, Baba Salé et Rabbi Dolelov, l'histoire à laquelle je voulais aboutir. Un jour, Baba Salé chez lui à la maison, tout au sud du pays, à Netivot. On est dimanche. Qui vient en fin de matinée là-bas? Le chamash, comment on dit en français le chamash? Serviteur. J'ai pas le mot serviteur. L'intendant, on va dire, c'est lui, l'aide, on va dire. L'aide de Baba Salé, il s'appelle Rabbi Eliaou Elfassi. Baba Salé lui dit, où tu étais? Je reviens de Méron. Méron, c'est la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, au nord du pays, dans le Galil. Méron, qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Si, je rentrais, tout Shabbat, il y avait là-bas le Rabbi de Lélov. Rabbi de Lélov est à Méron? Bien, on y va. Quoi, on y va? Je viens d'arriver. À l'époque, venir Méron, Netivot, c'était 8 heures de route. Je viens d'arriver. On part maintenant. Baba Salé était déjà vieux, mais il dit une chose, on ne peut pas le bouger. Bon, ils prennent la voiture, 8 heures de route, ils arrivent à Méron. On est allé, je veux dire, passer à Méron. On entre, il y a l'entrée, comme ça on va vers la tombe. Sur la gauche, il y a une petite chambre, où là, il y a la police d'habitude qui est là-bas. Qui avait dans cette chambre de la police, couché dans un lit, le rabbi de Lélov. Baba Salé va directement là-bas, et il rentre. Qui est là-bas? Il y a le rabbi de Lélov. Son aide, du Rabbi Lélov, et le Rav Grossman, qui est témoin, qui me racontait l'histoire. Baba Salé rentre, il voit le Rabbi de Lélov, et les deux, pas un mot. 10 minutes, discussion, sans bouger les lèvres. La deuxième fois que le Rav Grossman me raconte l'histoire, parce que deux fois je demande qu'il me raconte l'histoire à un intervalle de quelques années, pour que je reconnaisse bien tous les détails, je lui dis, comment c'est le regard? Il m'a dit, Gagouim, avec amour l'un pour l'autre. Un regard comme ça de... Vraiment, une communication pendant 10 minutes sans dire un mot. Après quoi Baba Salé sort de cette chambre, va aujourd'hui sur le côté des femmes, près de la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, n'arrive pas à la tombe, s'arrête à 1 mètre environ, on lui amène une chaise, s'assied, il prend sa canne, les mains comme ça, pendant 20 minutes environ, sans dire un mot, il est comme ça, à côté de la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. Qui va avec lui? Le Rav Grossman. Il le soutient comme ça. Ils sortent ensemble, le Rav Grossman sort avec Baba Salé. L'aide du Rabbi de Lélov sort venir vers eux. Rav Grossman demande à l'aide du Rabbi de Lélov en yiddish. Baba Salé ne comprend pas le yiddish. Dis-moi, le Rebbe, qu'est-ce qu'il a dit à propos de la rencontre entre Baba Salé et lui? Le Rebbe a dit, Baba Salé et moi avons discuté ensemble, ce que nos amis veulent nous faire, ils se le feront l'un à l'autre. Quelques jours après, a débuté la guerre Irak-Iran. Deux grands tzadikim, avec le troisième, l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai, décident d'une guerre qui va durer plus de 10 ans, fera des centaines de milliers de morts, pour sauver Am Israël. Maintenant, il y a un problème. L'Irak aujourd'hui a été conquis par l'Amérique. Il y avait un grand ennemi du peuple juif là-bas, Saddam Hussein. Mais quelque part, Saddam Hussein nous protégeait. Pourquoi? Parce que l'Iran, nous aime pas aussi, est un grand ennemi. Tant que les deux font la guerre, alors j'ai l'Irak, mais je n'ai pas l'Iran. Maintenant que l'Irak a disparu, qu'est-ce qui se passe? L'Iran veut conquérir l'Irak. Depuis toujours. Pourquoi? La vraie raison, le pétrole. Terrain pétrolifère, ça vaut tout. Mais ça, on ne va pas dire au peuple. Qu'est-ce qu'on va dire au peuple? En Irak, la majorité de la population, elle est chiite. La minorité dominante, elle est sunnite. Saddam Hussein était sunnite. Les Iraniens sont chiites. Qu'est-ce qu'ils disent à leur zouaï, au peuple iranien? Nous devons aller maintenant conquérir l'Irak pour sauver la majorité chiite sous égide, oppression, dictature injuste de la minorité sunnite. Djihad, on va aller maintenant partir en guerre sainte pour sauver nos frères chiites. Actuellement, on m'a dit que c'est l'Iran qui pousse en Irak à faire toutes les bombes pour que les Américains partent de là-bas, parce que ils disent, nous voulons maintenant vous aider, vous, nos frères chiites. Ils veulent le pétrole, mais ils ont un bon alibi, sauver les frères chiites. La Gemara nous dit, traité Sanhedrin, page 98a. Quelle heure est-il? Allez, avec l'aide de Dieu. Je commence avec Gemara, bien que la première partie, c'est une introduction, et je ne connais pas le sens. Je vais quand même la lire. Shalut al-Midav et Rabbi Yossi ben Kisma. On demandait ses élèves à Rabbi Yossi ben Kisma. Et Matai ben David ba. Quand vient le fils de David? Le fils de David, c'est le Mashiach. Question que nous posons tous. Quand vient Mashiach? S'il demande la question à Rabbi Yossi ben Kisma, ça veut dire qu'il devait le savoir. Amar, il leur a dit, Mitiere ani shemat vakshu mimenu ot. J'ai peur que si je vous dis, vous allez me demander un signe. Ot. Un signe comme quoi ce que je dis est vrai. Il demande de faire un miracle ou une chose qui prouve que ce que je dis est vrai. Amoulo, il leur répondit, En anou mevakshu, on ne te demandera rien. Dis-nous simplement quand il vient. Vous demanderez un signe? Non, on ne te demandera rien. Amarlem, il leur a dit, Lakshipo la charazé. Et je ne sais pas le sens de ce que je veux dire maintenant, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je vous le lis. L'Akshéipol Acharazé, lorsque tombera ce portail, Vibané, il sera reconstruit. Vipol, il sera de nouveau détruit. Vibané, il sera reconstruit. Vipol, il sera de nouveau détruit. Ven Maspikin Livnoto, on n'aura pas le temps de le reconstruire. Hach Ben David Ba, jusqu'à ce que déjà le Mashiach se dévoile, le fils de David se dévoile. Amoulo, ils lui ont dit, Rabbenu, notre Rav, tenanu hot, donne-nous un signe. Amarlem, je vous ai pas dit, Velokar Amartemli, c'est pas comme ça que vous m'avez dit, Shainatem Vakshimini Ot, que vous n'avez pas me demander un signe. Je vous ai dit, vous m'avez dit que vous n'avez pas me demander un signe. Amoulo, c'est vrai, Afalpichen, néanmoins. Amarlem leur a dit, Imkar, si ce que je dis est vrai, Yafru Memar Pamias les dames, que les eaux de la grotte de Pamias, c'est Banias, c'est une grotte, une source d'eau au nord du pays, se change en sang. Venez frou les dames, elles se sont changées en sang. Pour dire que ce qu'il avait dit était vrai. Le sens de cela, je l'ignore. La suite est intéressante. Béchat Ptirato, lorsqu'il allait mourir, Rabbi Yosef ben Kisma. Amarlen leur a dit, Amikou le Aroni, enfoncez beaucoup mon cercueil. Shen Kol, alors là, enregistrez bien ce que je vais dire, parce que c'est opaque. Et Rashi va nous dévoiler le sens de ce qui est marqué ici. Enfoncez profondément mon cercueil. Entre parenthèses, il est enterré où? Rabbi Shimon Kisma, à 100 mètres de la tombe d'Rabbi Shimon Bar Yochai, à Meron. Peut-on aller ce jeudi, mais à l'occasion, on pourrait y aller dans sa grotte. Shen kol dekel ve dekel shel bebavel shen sou shel parsim nikcharbo. Car tu n'as pas de palmier en Babylonie dans lequel tu n'as pas un cheval, auquel tu n'as pas un cheval perse qui est attaché. Enfoncez beaucoup mon cercueil dans la terre. Car tu n'as pas de palmier en terre de Babylonie, auquel tu n'as pas un cheval perse qui est attaché. Venecha kol Aaron va'aron, tu n'as pas de cercueil. Sheberts Israël, qui est en terre d'Israël, Shen sus madai ochelbo, dont tu n'as pas, dans lequel tu n'as pas un cheval, Med, c'est la Perse aussi, Ochel botem qui mange dedans du foin. Enfoncez beaucoup mon cercueil, parce que tu n'as pas de palmier en terre de Babylonie auquel tu n'as pas un cheval perse qui est attaché, et tu n'as pas de cercueil en terre d'Israël dans lequel tu n'as pas un cheval mède, c'est perse aussi, qui mange du foin. Là s'arrête la Gemara. Rashi. She'en sus madai ochel boteven. Rashi vivait il y a 900 ans. On n'a jamais vu qu'il avait. Il avait peut-être, on ne l'a pas vu dans son texte, qu'il avait roi Hakodesh, qui était un don de prophétie. J'imagine qu'il a reçu cela de textes beaucoup plus anciens. Beaucoup de textes, de commentaires de Rashi proviennent de Responsa, des Géonim, beaucoup de choses qui sont très anciennes. En tout cas, je ne sais pas d'où il tient cela, mais c'est assez extraordinaire, vous allez le voir tout de suite. She'en sus madai ochel boteven. Tu n'as pas de cercueil dans lequel tu n'as pas un cheval mède qui mange du foin. Shemotzi'in aronot chutz la karka, qu'on déterre les cercueils hors de la terre, on les met hors de la terre. Vosin mehen evusin, on en fait des mangeoires, mais mehen met Gog ou Magog. Dans les guerres de Gog ou Magog, ce sont les guerres apocalyptiques de la fin des temps. Comme on l'a dit souvent ici, Gog ou Magog, c'est une union de tous les peuples contre nous, mais Gog, c'est le roi. C'est le prénom, le surnom d'un roi qu'on se nommera Gog, du pays de Magog, qui se trouve au nord d'Israël. Donc c'est à choix. Liban, Syrie, Irak, Iran, Russie. Et tous des grands amis, comme tout le monde le sait.
Au nord d'Israël.
Pardon ?
Au nord d'Israël.
Donc, il s'est marqué que durant la guerre de Gog ou Magog, cette attaque des peuples dirigés par ces peuples du nord, ils vont rentrer en terre d'Israël et ils vont faire des cercueils, des mangeoires pour y manger du foin. Donc Rabbi Yosef ben Kisma dit, écoutez, enfoncez beaucoup. Bon, je veux pas qu'on mange du foin dans mon cercueil, des chevaux, perses. Donc on entend que les perses sont censés arriver un jour ici avec leurs chevaux. Continuera si. Chez En Kolde Kelkar, tu n'as pas de palmier, ici de la Gemara, tu n'as pas de palmier en Babylonie dans lequel tu n'as pas un cheval perse qui est attaché sous la Babylonie. L'Irak. La Perse, c'est
l'Iran.
Kelomar, c'est-à-dire, Atidin dans le futur, Paras ou Mandai, la Perse et la Mède, c'est donc l'Iran. Lavo al-Bavel vont partir en guerre, conquérir la Babylonie, l'Irak. Ou l'Akda, ils vont la conquérir. Vitmala kol eretz bavel chelot parsiim vesusem. Et sera remplie toute la terre d'Irak des armées perses et de leurs chevaux. Je ne suis pas prophète, ni fils de prophète. Mais ça peut sembler pas mal actuel, parce que l'Amérique, combien de temps elle va rester là-bas? Le jour où elle part, qui rentre? C'est une question d'heures. Tchic-tchac. 80 millions, ils sont 80 millions d'Iraniens. Djihad, Allahu Akbar. C'est des chiites, c'est des... très religieux. Umisham est de là-bas, nous dit Rashi. Ba'im, l'Eretz Israël. Ils viennent vers la terre d'Israël. Velokdim ota et la conquise. Ils vont conquérir la terre d'Israël. Continue la Gemara. Amar Oula a dit Oula. Pourquoi est-ce qu'on appelle Oula? Quelqu'un de fois il a dit Oula. Yete qui viennent. Qui on parle du Mashiach? Velo Armine. Que je ne le vois pas. Que je ne le vois pas. Qui viennent, que je ne le vois pas. Il y a un petit jeu de mots qu'on disait à l'époque, franchement, je ne sais pas ce que ça vaut, mais c'est sympathique, c'est tout, parce que quand tu dis Yete Yolachmine, c'est Yete Yolachmine. Ata Yolachmine. C'est écrit là, noir sur blanc. Yete Yolachmine. Chamine. Bon, c'est un jeu de mots qui ne vaut pas grand-chose. Qui viennent, que je ne vois pas. Ayatoulachmine, on peut dire, bon, je ne sais pas, c'est un jeu de mots, j'ai rien dit. De même a dit Rabba, Yete Velo Achmine, qui vient, que je ne sois pas là pour le voir. C'est-à-dire que des grands rabbins ont dit que Mashiach, on veut qu'il vienne, mais je ne veux pas être là-bas. Ça va être tellement terrible. Tellement terrible, laisse-moi tranquille. Rav Yosef, il dit autrement. Amar, Yete, qui vienne. Veske, que j'ai la chance, de Itiv, de m'asseoir, Betula, à l'ombre, des Kofita, de la crotte, des Chamré, de son âne. C'est-à-dire, l'âne, c'est Chomer en hébreu, c'est la matière. La crotte, c'est ce qu'il y a, la matière qui n'a plus de vie. C'est d'être à l'ombre, pas à la lumière, à l'ombre de la crotte de l'âne, ça veut dire être au plus bas niveau possible de matérialité, mais que j'ai la chance d'être là-bas quand ma chair vient. Nous, on y est de toute façon, on n'a plus le choix. Baruch HaShem, que... j'espère qu'on le verra. Je sais qu'on le verra, Baruch HaShem. Amar le Abaye, le Rabba, Rabba. Je dois terminer, c'est le point, ma chute, plus important que je vous retiens encore 3-4 minutes. À Rabba, qui a dit que vient le Machir que je ne sois pas là pour le voir, il y avait un homme qui s'appelait Abaye. Lui a dit Abaye à Rabba, Maïtama, pourquoi tu ne veux pas être là quand Machir vient? Il est ma, tu me dis, Mishum Chelosh Machir à cause des douleurs d'enfantement du Messie, que ce sera très dur avant que le Messie vienne. Va-t-elle, voici qu'on a un enseignement. Shalou, Talmila, Bedrabi Elazar ont enseigné ses élèves, ont demandé ses élèves à Rabbi Elazar. Les élèves de Rabbi Elazar l'ont demandé un jour, c'est un enseignement que nous avons. Que doit faire l'homme pour être sauvé des douleurs d'enfantement du Messie? On sait qu'il y aura des douleurs d'enfantement, on sait comme un accouchement, ça fait très mal, le monde va aller très mal. Maintenant, il y en a qui seront sauvés, qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? A répondu Rabbi Elazar, Yasok Batora, Obegminut Chassadim, qui s'occupe de Torah, qui s'affaire en l'étude de Torah, s'affairer dans l'étude de la Torah, s'affairer. Je suis occupé à ça. Et, Gnout Rassadim, l'entraide, aider son prochain. C'est aider, c'est avec de l'argent donné à Tzedaka, tout ce qui est l'entraide vers l'autre. Être affairé à la Torah, Gnout Rassadim. Donc voici le truc qu'il faut pour être sauvé. Demande à Baya Rava, Oumor, et toi, mon Rav, ha Torah, vers Gnout Rassadim, tu as les deux. Pourquoi tu t'inquiètes? Que vient le Mashiach? Tu fais partie des gens sauvés, alors vas-y, pourquoi tu dis qu'ils ne viennent pas? Amarle, il lui a répondu, Shema Igro Machet. J'ai peur du péché. Peut-être qu'il y aura des péchés en Israël. Et on n'aura pas de mérite. Et on va écoper, ça va être terrible. On sait que le Tzadikim, ils écopent aussi pour Am Israël. Donc j'ai peur.
Et pourquoi l'autre rabbi n'avait pas peur? Parce que lui, il disait carrément.
Ouais. Il dit même avec le douleur d'enfantement. Je pense que le sens est le suivant. Douleur d'enfantement, oui. Mais demande à une femme maintenant qui va accoucher. Tu peux parfois ne pas tomber enceinte, pas avoir d'enfant. Elle dit, je préfère mille fois les douleurs d'enfantement, mais je veux des enfants. Vivre une naissance, d'un côté c'est terrible avant, mais après, demande à une femme qui a accouché, le plus grand bonheur de la vie, c'est quand l'enfant il naît. Rabbi Sanaba Shaoul m'a dit, j'ai déjà dit ici devant vous, qu'à son avis, le décret de douleur de Gog et Magog est déjà passé dans la Shoah. S'il a raison, il a dit, c'est mon avis, mais c'est pas certain. S'il a raison, donc en tout cas, le pire des douleurs est déjà derrière nous. Gog et Magog, il y aura. C'est union des peuples contre nous, tous contre nous, il y aura. À mon humble avis, je suis très petit, et je dis que Baruch HaShem, aujourd'hui, il y a des mérites. Le peuple d'Israël fait tchouva. Dans la guerre du Golfe, on a vu 39 juifs qui sont tombés sur Israël, Bnei Israël, 15 millions de juifs ont prié à Dieu, et on a eu des miracles. On a eu des miracles extraordinaires. Hachem, si on a, et c'est ça le but de ce que je veux dire ici, si nous tous nous réveillons maintenant pour faire beaucoup d'études de Torah, et c'est bientôt, je ne suis pas prophète ni fils de prophète, mais vous voyez, ça a l'air quand même, plus tous les signes qu'on connaît, c'est incessamment sous peu. Bezrat Hachem. Si oui, donc qu'est-ce qu'on doit faire? C'est pas quand on aura les armées iraniennes ici en train de dévaler sur les collines, commencer à faire tchouva. C'est maintenant affairé en Torah, et affairer en Gnout Chassadim et faire tchouva sur péché. Trois choses. Torah, Gnout Chassadim, et le péché, il faut qu'il n'y ait pas, il faut faire tchouva. Baruch Adonai, le Rav Amen, va...